Radio Éthique vous propose une info durable réalisée par Stéphanie Reynaud.
Elles s'appellent Salimata, Azara, Myriam, Mawa ou Pascaline. Elles sont jeunes filles aides familiales, c'est le terme utilisé par l'État burkinabé pour désigner les enfants travailleurs domestiques, ces petites bonnes que 70% des familles en ville emploient. La Croix-Rouge monégasque, grâce à un donateur anonyme, mène depuis mars 2011 au Burkina Faso un projet en faveur de ces travailleuses domestiques. Sur place, à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, c'est Dieudonné Thiem-Toré qui est le chef de projet pour la Croix-Rouge du Burkina. La sensibilisation a lieu dans les deux principales villes du pays, mais aussi en province, dans les villages où vivent ces jeunes filles avant qu'elles ne partent travailler vers les grands centres urbains.
C'est des filles qui viennent des zones rurales vers les grands centres urbains. Et généralement, c'est des filles qui n'ont pas eu accès à l'école. C'est des filles qui ont abandonné l'école et elles sont de plus en plus nombreuses. Comme vous savez, le taux d'éducation n'est pas aussi élevé au Burkina Faso. Donc ces filles se retrouvent en ville avec toutes les conséquences que cela comporte, notamment les risques d'exploitation et les violences sexuelles.
Dans les familles qui les accueillent ?
Oui, dans les familles qui les accueillent, c'est les bonnes à tout faire. C'est elles qui font le travail du matin au soir, pas de repos. Elles ne sont pas rémunérées comme il se doit. Et c'est des filles qui ont une surcharge de travail aussi toute la journée. C'est des filles qui sont dans des maisons où elles ne peuvent pas sortir comme elles veulent. Elles ne sont pas libres, d'autres n'ont pas toujours la chance de repartir chez elles.
Donc ça, c'est une pratique qui est extrêmement répandue en Afrique et particulièrement au Burkina Faso. Donc 80% environ des foyers citadins font appel à ces jeunes filles.
Oui, au Burkina Faso, notamment dans les grandes villes, toutes les familles ont besoin d'une aide familiale, d'une fille qui va s'occuper de l'enfant, qui va faire le ménage, qui va faire tout le travail. Le drame, c'est que ces filles, les gens veulent des filles très jeunes, parce que là, elles sont malléables. À 9 ans, 10 ans déjà, vous avez des filles qui sont utilisées déjà pour pouvoir s'occuper d'un enfant, pour pouvoir faire le ménage, pour aller au marché, bon, faire la lessive, la vaisselle, tout ce qui est travail domestique. Et ces filles, très jeunes, sont vraiment malléables et sont à la merci de ce qu'on appelle les employeurs, qui n'hésitent pas vraiment à les exploiter. Et à des filles, à la fin du mois, elles ne sont pas payées.
Alors, quel type d'action vous arrivez à mener sur le terrain concrètement pour faire évoluer cette situation-là?
Dans le cadre du projet, nous avons plusieurs types d'actions. D'abord, nous avons des actions de sensibilisation à l'endroit de ces familles-là. Ensuite, nous avons des actions d'éducation pour ces filles. Nous proposons à ces filles celles qui peuvent. On essaie de les réinscrire à l'école. Pour certaines, il y en a d'autres qui continuent à travailler, mais qui font aussi des cours du soir. Et tous ces frais sont pris en charge par le projet. Il y a des filles qui acceptent de repartir pour des formations professionnelles. Et le projet les accompagne dans cette démarche. Il y a des filles aussi qui bénéficient de ce qu'on appelle un peu des appuis financiers pour mener des activités génératrices de revenus, pouvoir à leur propre compte mener leur propre activité et aussi s'en sortir. Au-delà de tout ça, nous avons aussi des actions d'appui psychosocial parce que comme on l'a dit, c'est des filles qui sont victimes de maltraitance, de plusieurs traumatismes qui ont notamment des conséquences sur ces filles-là. Et nous les accompagnons d'un point de vue psychosocial à travers des écoutes, nous les écoutons, nous essayons de les conseiller et de les orienter surtout. Nous avons ce qu'on appelle aussi des activités d'animation à travers des détentes dimanches. Permettre à ces filles de pouvoir se libérer au moins un jour dans la semaine, notamment les dimanches, avec l'accord de leur employé, bien sûr, pour qu'elles puissent participer à des activités d'animation, de jeux, d'abord s'amuser. Et à travers ces activités, nous avons des actions de sensibilisation à l'endroit de ces filles sur des thèmes variés tels que la santé de la reproduction, parce qu'il ne faut pas ignorer qu'il y a des filles qui sont victimes vraiment de harcèlement sexuel, et il y a des grossesses non désirées. Et ces actions visent vraiment à leur permettre de se connaître elles-mêmes, de pouvoir se prendre en charge, de pouvoir prendre des décisions quand il le faut, pour leur permettre de croire en elles-mêmes, d'avoir un leadership à leur niveau, entre elles d'abord et au niveau de la communauté.
Pour qu'elles puissent bénéficier de ces différentes actions, il y a une condition sine qua non, c'est que l'employeur la laisse faire.
Oui, et là, il faut le dire, c'est à ce niveau que c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas avoir accès aux filles sans l'accord des employeurs. Mais il faut dire que nous menons des activités de porte à porte. Nous rentrons dans les familles qui nous accueillent et nous essayons d'expliquer. Au début, ce n'était pas chose évidente. Mais avec le temps, la confiance s'instaure parce que, comme on l'a dit, il ne s'agit pas pour nous de systématiquement retirer ces filles parce que même si nous les retirons de ces familles, elles iront prendre encore d'autres aides familiales. Donc nous travaillons vraiment à instaurer un climat de confiance, de sorte à travailler avec l'emploi, à améliorer les conditions de cette fille, et surtout dans le respect de ses droits, lui permettre aussi d'avoir des temps de repos, de pouvoir bénéficier d'une éducation, afin que lorsqu'elle va quitter cette famille, elle puisse avoir la possibilité de faire autre chose dans sa vie.
Au Burkina Faso, les droits de l'enfant existent, ainsi qu'un code du travail, mais c'est leur application qui reste difficile. Depuis 2 ans, le projet de la Croix-Rouge monégasque, porté par Dieudonné Thiem-Touré, a permis d'aider 500 jeunes filles. Certaines sont retournées à l'école, d'autres ont suivi une formation professionnelle. Pour d'autres encore, le seul fait de participer aux animations dites « causeries » leur permet de s'échapper un instant de leur quotidien harassant et parfois traumatisant. Cette action ne pourrait pas avoir d'impact réel à long terme sans la sensibilisation des familles elles-mêmes. Claude Fabretti, responsable de la section humanitaire internationale pour la Croix-Rouge monégasque.
C'est plus de 5000 familles, donc environ 30 000 personnes, qui dans les zones de départ ont été sensibilisées à cette problématique. Il faut savoir, comme le disait Dieudonné, que les villes représentent un peu un Eldorado pour ces jeunes filles. Elles partent dans l'espoir d'une vie meilleure, la ville avec son électricité, l'eau courante, le téléphone, les distractions. Et donc, il y a un problème de méconnaissance des dangers qu'elles vont rencontrer en ville. Les activités mises en œuvre par Dieudonné et son équipe sur place sont totalement différentes selon que l'on se trouve en zone rurale et en zone urbaine, à Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, qui sont les grandes villes du Burkina Faso. Nous avons un type d'action que Dieudonné vient d'évoquer. Et dans les zones de départ, la région du Pony, Gawa, les actions sont totalement différentes. On va mener notamment du théâtre de sensibilisation, du porte-à-porte, donc des actions à travers du théâtre forum pour sensibiliser les jeunes filles en partance et leur famille. Il faut savoir que depuis 2 ans et le début de ce projet, le nombre de grossesses non désirées dans les zones de départ ont été réduits par 2. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois moins de grossesses non désirées dans les villages. Certaines familles, après cette sensibilisation, ont fait revenir leurs filles parce qu'ils ignoraient quels étaient les dangers. L'intérêt, c'est vrai que 500 jeunes filles, ça peut sembler peu, mais il faut savoir que chaque cas de jeune fille prise en charge en ville est un cas différent. Certaines ont subi des violences psychologiques, d'autres des violences physiques. Souvent, elles ont des souffrances elles-mêmes dans leurs enfances. Et ce qui est fort à travers ce projet et notre collaboration avec la Croix-Rouge du Burkina Faso, c'est que vraiment, on a le temps et les moyens d'étudier chaque cas et d'apporter la réponse appropriée. Ça peut être une formation professionnelle à la couture, à la cuisine, à la coiffure, une scolarisation en cours du soir pour être alphabétisé, fournir un vélo.
Donc là, vous êtes rassuré sur la pérennité de ce projet qui devrait au moins en tout cas continuer jusqu'à 2016. Est-ce que vous allez passer à une vitesse supérieure? Est-ce que vous allez déployer d'autres actions de sensibilisation ou continuer sur la même lignée?
D'abord, nous allons préserver les acquis. C'est d'abord de continuer dans la même dynamique. Et ensuite, renforcer sur la base de l'expérience que nous avons déjà. C'est des acquis sur lesquels nous allons nous appuyer pour toucher le plus grand nombre de filles possible d'abord. Et ensuite, renforcer celles que nous avons, ne pas les abandonner parce que c'est des filles, il faut le suivre, va se faire dans le long terme plus ou moins parce que c'est toute une démarche pour amener les filles qui sont à un niveau où elles n'ont pas de compétences, à un niveau où elles ont des compétences, et ça ne s'acquiert pas en une année forcément. Celles qui sont dans la scolarisation, qui suivent l'école, il faut pouvoir aussi les accompagner dans tout le processus jusqu'à ce qu'elles puissent avoir quand même des diplômes jusqu'à un certain niveau. Il faut aussi que nous soyons vigilants parce qu'il y a des situations d'urgence qui se posent dont on n'est pas toujours informé. Et les filles n'en parlent pas. Donc, il faut mettre en place un dispositif de sorte à pouvoir avoir accès à ces filles. Et nous sommes en train de renforcer ce dispositif, de pouvoir le mettre en place à travers ce que nous avons appelé un guide de référencement que nous allons mettre en place avec des structures sanitaires, des structures de l'action sociale, avec d'autres ONG. Et ce que nous appelons des leaders communautaires que nous avons dans les communautés, qui sont des personnes ressources qui vont nous accompagner. Donc, tout cela, nous allons pouvoir faire en sorte de pouvoir avoir un œil, d'être aux aguets par rapport à tout ce que ces filles peuvent avoir comme type de maltraitance et de pouvoir intervenir en leur faveur. Nous avons édité un document avec une ONG Terre des Hommes que nous avons appelé le guide de bonne conduite. Et ce guide-là, nous l'utilisons dans les familles, lorsque nous avons accès, à expliquer aux familles voilà comment il faut traiter la jeune fille dans le respect vraiment de ses droits.
Quelles sont justement ces pratiques qui sont rappelées, ce respect qui est souligné? C'est quoi? La laisser se reposer quand voilà, il le faut?
Voilà, c'est pouvoir lui donner des temps de repos, parce qu'on a des jeunes filles qui se lèvent les premières et sont les dernières à se coucher. Toute la journée, c'est elle qui va faire tout le travail. Donc, c'est pouvoir rappeler quand même à ses employeurs les temps de repos. Il y a aussi la rémunération. C'est de faire en sorte que, bon, elle puisse bénéficier du minimum, avoir aussi le temps d'aller voir ses parents, de recevoir aussi des visiteurs, de la famille, pour lui rendre visite, parce qu'il y a des familles où ça ne se fait pas. Il y a des filles qui ont vécu des traumatismes que les employeurs ne savent pas toujours. Dans le comportement, ils ne comprennent pas ces filles-là. C'est de les amener que c'est des filles qui sont généralement des adolescentes, elles ont des comportements qu'il faut comprendre, pouvoir aussi les accompagner parce qu'elles ont besoin d'être écoutées, elles ont besoin d'aide et peuvent se comporter comme des parents. C'est ce qu'on a appelé le bon père. Voilà, le bon père, c'est ça, c'est celui aussi qui protège cette fille qui travaille chez lui.
Grâce à l'organisation de Dimanche Détente et au fait que le bouche à oreille fonctionne très bien en Afrique, la Croix-Rouge commence à accéder peu à peu aux cas les plus graves, aux jeunes filles les plus vulnérables.
Les jeunes filles nous indiquent elles-mêmes d'autres jeunes filles qu'elles ont croisées sur un marché ou qu'elles ont vues ou dans d'autres familles, mais qui ne sortent jamais. Elles vivent quasiment reclus à l'intérieur de l'enceinte familiale et c'est elles-mêmes qui nous indiquent quelles sont les plus vulnérables d'entre elles. Et donc, plus on évolue dans ce projet, et plus on va vraiment accéder aux cas les plus difficiles, et le rapport de confiance étant instauré et avec les jeunes filles, et avec les services de l'État, et avec les familles qui les emploient, on va pouvoir petit à petit accéder vraiment aux cas les plus durs et les plus vulnérables.
Généralement, qu'est-ce qu'il advient de ces jeunes filles qui arrivent à l'âge de 9-10 ans dans une famille où elles sont un peu coupées du monde, dans des situations très difficiles, où elles n'ont pas d'éducation? Ces jeunes femmes, un jour, deviennent des femmes. Qu'est-ce qu'il advient de ces personnes-là?
Oui, c'est surtout ça. Elles vont devenir des femmes, elles vont se marier. Mais le risque, beaucoup de filles repartent au village avec des maladies. C'est ça, le VIH-SIDA. Ces filles, à un moment donné, lorsqu'elles évoluent, prennent de l'âge, elles commencent à se rebeller, elles se révoltent, et elles sont mises dehors pour certaines, qui sont obligées de repartir au village. Voilà, elles ont perdu un temps où elles n'ont rien appris, elles ne peuvent rien faire. Il y a aussi des filles qui vont se retrouver après dans la prostitution, malheureusement. C'est ce qu'on appelle le travail dans les bars. C'est un autre milieu encore plus dangereux. Beaucoup de filles, après avoir fait ce travail d'aide familiale de bonne dans les maisons, se retrouvent dans ce milieu-là, et c'est là où il ne faut pas vraiment qu'elle y arrive, parce que lorsqu'on y rentre, ça devient difficile vraiment de sortir, parce qu'il y a la drogue, c'est la prostitution, c'est vraiment tout ce qui est dangereux pour une femme. Il faut dire qu'on a enregistré malheureusement un cas de tentative de suicide, parce qu'il y a des filles dans le désespoir, beaucoup de choses peuvent arriver. Il faut dire aussi qu'après, ces filles, c'est des filles aussi que lorsqu'elles arrivent à un certain âge, on veut les obliger à se marier parce qu'elles deviennent gênantes ou autre chose. Donc il y a ce qu'on appelle le mariage forcé chez nous. Et beaucoup de filles sont victimes de ça. Nous, on a déjà, dans le cadre du projet, eu à traiter au moins 3 cas comme ça, qui sont arrivés, malheureusement.
Mariage forcé avec un des membres de la famille qui accueille, un cousin?
Bon, pas forcément un cousin, mais voilà, la famille identifie quelqu'un, où on dit, bon, voilà, généralement, c'est des personnes âgées, et c'est ça le drame. Souvent, c'est des vieilles personnes qui sont près de 60 ans déjà.
Qui sont veuves?
Voilà, bon, pas veuves, mais elles vont aller comme deuxième femme. Généralement, voilà, les gens ont plusieurs femmes, et cette fille-là va être la troisième femme, la quatrième femme pour certaines, sinon la deuxième. Et ça crée beaucoup de problèmes à ce niveau. C'est aussi compromettre la vie de ces filles-là.
La Croix-Rouge tente de scolariser les jeunes filles dans leur village d'origine le plus longtemps possible, pour que lorsqu'elles partent vers l'âge de 16 ans travailler en ville durant 3 ou 4 ans dans le but de se constituer une dot, elles puissent revenir ensuite au village dans de bonnes conditions.
Ce qui se passe malheureusement de plus en plus fréquemment, c'est que ces jeunes filles, quand elles partent à l'âge de 9-10 ans, donc elles ne sont pas encore alphabétisées, pas encore scolarisées, plus elles partent tôt et plus elles sont vulnérables et plus le retour dans les villages pose problème. Et c'est souvent dans ces cas-là, elles sont chassées des familles vers 17-18 ans et là, il ne leur reste plus comme alternative pour rester en ville que de travailler dans des établissements nocturnes où souvent c'est associé à de la prostitution, problèmes liés au VIH-SIDA et à la drogue. On a établi un petit, une bande dessinée qui s'appelle Mama et Biba dans le cadre de ce projet où on donne deux exemples de deux jeunes filles. Une qui a préparé son départ et qui l'a anticipé et qui connaissait les risques, qui revient au village et ça se passe bien. Et une qui est malheureusement rencontre toutes ces galères en ville, les violences, les grossesses non désirées, la prostitution, et qui revient un jour au village et retrouve son amie d'enfance et elle compare leur parcours. Et là aussi, cette bande dessinée est un outil de sensibilisation à l'endroit des familles et des autorités publiques pour faire prendre conscience de ce phénomène.
C'était une interview réalisée par Stéphanie Reynaud.